Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. Le traité international interdisant les armes nucléaires non signé par les pays détenteurs de l'arme atomique est rentré aujourd'hui en vigueur, une concrétisation saluée par l'ONU et le pape François. Le traité interdisant les armes nucléaires a été établi à l'initiative de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, une ONG gratifiée pour son action du prix Nobel de la paix en 2017. Le Japon, seul pays à avoir subi le feu nucléaire, a exclu de le signer pour l'instant et mis en cause son efficacité vu que les puissances atomiques n'y adhèrent pas. Le président américain a promis jeudi une mobilisation comme en temps de guerre face au COVID-19 qui a fait près de 410 000 morts aux États-Unis. Joe Biden a notamment annoncé des restrictions pour les voyageurs et rendu le port du masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Les États-Unis ont également marqué leur retour à l'OMS en s'engageant à remplir leurs obligations financières envers l'organisation. Jugeant la situation sanitaire très grave, l'Union européenne a appelé à éviter les voyages non essentiels entre les pays du bloc pour faire face à la menace des nouveaux variants du coronavirus à l'issue d'un sommet des 27 par vidéoconférence jeudi. La France a annoncé dans la foulée qu'elle imposerait à partir de dimanche aux voyageurs en provenance d'autres pays européens la présentation d'un test négatif réalisé 72 heures avant le départ. Le Portugal va fermer ses crèches, ses écoles et ses universités pendant 15 jours et a décidé d'interrompre totalement les vols vers et en provenance du Royaume-Uni à partir de samedi, a annoncé le Premier ministre Antonio Costa. Le Parlement néerlandais, lui, a approuvé l'instauration à partir de samedi d'un couvre-feu entre 21h et 4h30 du matin. Une vingtaine de membres des forces de l'ordre kényanes chargés de faire respecter le couvre-feu lié au COVID-19 ont été inculpés pour avoir lancé du gaz lacrymogène dans un domicile et battu ses habitants, a annoncé jeudi l'autorité de supervision de la police. Les 15 policiers et 6 agents de force de l'ordre du comté seront jugés le 1er février à Bungoma, dans la région de Busia, dans l'ouest du Kenya, où se sont déroulés les faits au premier jour d'un strict couvre-feu imposé en mars pour endiguer l'épidémie naissante de coronavirus. Le Mali prévoit de commencer la vaccination contre le COVID-19 en avril, a indiqué le Conseil des ministres jeudi. Le Mali va acheter 8,444 millions de doses pour une population d'environ 20 millions avec la contribution financière de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination de la Banque mondiale, a dit le Conseil des ministres dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. L'OMS espère envoyer les premiers vaccins fin janvier ou en février. Un prêtre porté disparu depuis mardi au Burkina Faso a été retrouvé mort jeudi dans une forêt du sud-ouest où sévissent des djihadistes, nouveau signe de la dégradation sécuritaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'abbé Rodrigue Sanon avait pris la route mardi matin à Soubaganié-Goudougou pour rejoindre Banfora, la capitale régionale. C'est la première fois qu'un prêtre est retrouvé mort dans cette région du sud-ouest du Burkina Faso, frontalière du Mali et de la Côte d'Ivoire, et où, je l'ai dit, des groupes djihadistes sévissent. Au Nigeria, Oumar Farouk, âgé de 13 ans, est condamné en août à 10 ans de prison pour blasphème par un tribunal islamique, a été acquitté jeudi par la cour d'appel de Kano, dans le nord du pays. En août dernier, le tribunal appliquant la charia, la loi islamique en vigueur dans de nombreux États à majorité musulmane du nord du Nigeria, avait condamné à 10 ans de travaux forcés l'adolescent, jugé pour avoir utilisé un langage grossier contre Dieu au cours d'une dispute avec l'un de ses amis. Ce jugement avait alors suscité une indignation internationale et a été condamné par plusieurs gouvernements étrangers et les associations de défense des droits humains. VOA Afrique Info, nous sommes le vendredi 22 janvier 2021. En ligne de mire dans ce journal, la Centrafrique proclame l'état d'urgence face à la rébellion COVID-19. La Sierra Leone boucle sa capitale Freetown et rétablit un couvre-feu. Soulagement international après le retour américain à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Jean-Roger Billon à ce micro, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations ce vendredi 22 janvier 2021. En République centrafricaine, l'état d'urgence est déclaré pour 2 semaines. L'émissaire de l'ONU, Mankeur Ndiaye, souhaite une augmentation substantielle du nombre de casques bleus après les récentes attaques de groupes armés. Les détails avec Mouhamadou Mfa.
L'état d'urgence est proclamé sur tout le territoire national pendant 15 jours, a déclaré hier soir à la radio nationale Albert Yaloké Mokpeme, porte-parole de la présidence à Bangui. De son côté, Mankeur Ndiaye, émissaire de l'ONU, n'a pas précisé le nombre de casques bleus supplémentaires souhaités par la MINUSCA, qui compte déjà quelques 12 000 soldats. Il a aussi réclamé une prorogation de quelques mois du renfort de 300 soldats rwandais détachés en décembre de la mission de paix au Soudan du Sud pour la Centrafrique. Ce renfort était prévu pour seulement 2 mois. Mankeur Ndiaye a aussi évoqué les forces de sécurité centrafricaines qui sont de l'ordre de 2600 militaires mais sont trop récentes, trop peu équipées et peu aguerries. Le 17 décembre, 6 groupes armés qui occupent les 2/3 du pays ont lancé une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. La MINUSCA a perdu 7 casques bleus.
Les autorités de la Sierra Leone ont annoncé jeudi boucler Freetown, la capitale, et rétabli un couvre-feu nocturne dans tout le pays pour contrer l'augmentation des cas de COVID-19. Les précisions de John Lindon.
Ces mesures, rendues publiques jeudi, vont entrer en vigueur à partir de lundi pour 2 semaines dans un premier temps. Les autorités ont décidé de restreindre les entrées et sorties de Freetown et ses environs. La capitale a recensé plus de la moitié des cas de contamination dans le pays. Les déplacements en dehors de Freetown, considérés comme essentiels, seront assujettis à un test COVID négatif de moins de 72 heures. Un pass électronique, accessible par une application mobile, sera introduit pour réguler les mouvements essentiels. Un couvre-feu est également rétabli dans tout le pays de 22h à 5h du matin. Les restaurants et les bars devront rester fermés le week-end. Et le port du masque demeure obligatoire dans les lieux publics. La Sierra Leone a déclaré au moins 3081 cas de contamination et 77 décès depuis mars 2020.
La communauté internationale a exprimé son soulagement hier après le retour des États-Unis au sein de l'OMS. Moins de 24 heures après l'investiture de Joe Biden, Washington s'est engagé à participer à la réponse internationale à la pandémie. Eric Manirakiza.
C'est un grand jour pour l'OMS et un grand jour pour la santé mondiale, a déclaré le patron de l'OMS. Dans un tweet, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est dit ravi que le président Biden ait fait du retour des États-Unis à l'OMS l'une de ses premières décisions. Plusieurs observateurs ont exprimé l'espoir que ce retour aura des conséquences positives, en particulier sur les maigres finances de l'OMS plombées par le départ américain. Hier, le docteur Anthony Fauci, nommé conseiller de Joe Biden, s'est adressé au conseil exécutif de l'organisation. Il a annoncé que les États-Unis, qui étaient le premier bailleur de fonds de l'agence, ont l'intention de remplir leurs obligations financières envers l'organisation. Monsieur Fauci a précisé que les États-Unis allaient rejoindre le dispositif COVAX mis en place par l'OMS pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nathalie Barge.
En 2020, les entreprises technologiques de la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord ont levé plus $1 milliard de financement sous forme de capital risque. Selon un rapport de Manit, une plateforme de soutien aux start-up basée à Dubaï, un chiffre en hausse alors que le nombre de marchés effectués a diminué de 13% à 496 transactions. En raison de la pandémie, les investissements ont surtout progressé dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et des boissons, souligne le document. En République du Congo, les cadres du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale tiennent des ateliers jusqu'au 29 janvier à Kintele sur les procédures et guides méthodologiques dans le cadre d'un programme de système intégré de gestion. Ces instruments informatiques visent à optimiser l'information budgétaire et normaliser l'appui des partenaires au développement, entre autres recommandations du PRISP, le projet de réforme intégrée du secteur public. La banque panafricaine Ouba a nommé une femme à la tête de ses opérations de développement des affaires au Kenya. Marie Mulili, qui évolue dans le secteur bancaire depuis une vingtaine d'années, est experte dans l'analyse de crédit et la gestion des petites et moyennes entreprises. Malgré la pandémie de Covid-19, Ouba Kenya a réalisé au troisième trimestre 2020 un bénéfice net de plus de 251 millions de shillings, l'équivalent de 2,3 millions de dollars, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La République démocratique du Congo a conservé la tête du groupe B du championnat d'Afrique des Nations après la deuxième journée de la phase de groupe qui s'est achevée par deux matchs nuls. Les hommes de Florent Ibengué, qui a annoncé avoir été contrôlé positif au Covid-19, ont partagé les points avec la Libye 1-1. La RDC a été menée dès la sixième minute et le but de Mouitaz Al-Mehdi, mais a finalement égalisé in extremis grâce à Massassi Oubenza à la 94e. Dans l'autre match de ce groupe, le Congo et le Niger se sont neutralisés sur le même score 1-1. Prince Mapata Mwanza a placé les Congolais aux commandes du match à la 35e minute avant que Moussi Issa Moussa ne remette les deux sélections à égalité à la 70e minute sur pénalty. Victorieuse de son premier match contre le Congo, la RDC reste en tête du groupe avec 4 points devant la Libye et le Niger 2 points. Le Congo, un point, ferme la marche. Le groupe C fait sa deuxième sortie ce soir avec les rencontres Maroc-Rwanda et Ouganda-Togo. Succès historique pour la République démocratique du Congo au mondial de handball qui se joue en Égypte. Les Léopards ont remporté leur première victoire dans un mondial de handball face à l'Angola 32-31 hier au Caire. Dans les matchs de classement, l'équipe de Gauthier Mvumbi, pivot remarqué pour son physique atypique 1m95, pour 137 kilos et sa redoutable efficacité à 6 mètres, a renversé son redoutable voisin angolais. Les Congolais, qualifiés en tant que 7e du dernier championnat d'Afrique pour ce premier mondial à 32 nations, contre 24 auparavant, voudront poursuivre leur progression samedi contre la Tunisie, autre référence africaine. Ici, aux États-Unis, la NBA a annoncé le report des 3 prochains matchs de sa saison régulière de Memphis. À cause du coronavirus, les Grizzlies n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles, alors qu'un minimum de 8 par équipe est requis pour jouer, sont concernées les rencontres contre Portland vendredi et dimanche, ainsi que celles contre Sacramento lundi. Selon le protocole sanitaire mis en place par la Ligue, un premier match des Grizzlies contre Portland devant se disputer mercredi a aussi été reporté pour les mêmes raisons, tout comme celui prévu vendredi entre les Wizards de Washington et les Milwaukee Bucks. Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne ayant été contaminée doit être mise en quarantaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. L'administration Biden a promis de rompre avec la diplomatie unilatéraliste de son prédécesseur Donald Trump. Quelle pourrait être la place de l'Afrique dans la nouvelle politique étrangère des États-Unis? Eric Manirakiza a joint Souleymane Béchi Diagne, professeur à Columbia University.
Volonté du président Biden de revenir au premier plan dans les affaires du monde signifiera de manière quasiment nécessaire un intérêt pour le continent africain et un intérêt au-delà des simples questions de sécurité. Les questions de sécurité sont là, évidemment, qui vont attirer son attention, mais au-delà de cela, je crois qu'il y aura un intérêt réel pour un partenariat avec le continent américain.
Concrètement, en quoi l'Afrique pourrait profiter du passage de Biden à la Maison-Blanche?
Si le passé porte des leçons, on se souvient que l'administration Obama-Biden avait déjà manifesté un intérêt renouvelé pour le continent africain. Le sommet Afrique-Amérique qui s'était déroulé sous l'administration Obama doit être une leçon. On sait que le président Biden a joué également un rôle dans un accord commercial qui a été négocié avec le Kenya, mais ce sont des signes, à mon avis, qui peuvent indiquer potentiellement un intérêt ferme pour l'Afrique. Et de ce point de vue-là, c'est aux Africains eux-mêmes aussi de prendre l'initiative en la matière, parce qu'il ne s'agit pas simplement pour l'Afrique d'attendre ce que l'Amérique va faire. L'Afrique doit affirmer sa propre présence dans les affaires du monde et prendre l'initiative de dire aux États-Unis sur quel point, évidemment, des partenariats nouveaux peuvent se nouer.
Qu'est-ce que l'Afrique peut offrir en retour?
Il faut se souvenir que l'Afrique aujourd'hui est une Afrique avant la pandémie, évidemment, parce que là, nous sommes en pleine catastrophe. Mais avant la pandémie, c'est une Afrique dont tout le monde s'accordait à penser qu'elle portait des promesses très, très importantes et que c'était un continent d'avenir, peut-être même le continent de l'avenir. Il y a ses ressources naturelles qui ont toujours été là. Il y a la jeunesse de sa population dont on s'accorde à penser qu'elle est à la fois, elle peut être un problème évidemment parce que ce sont des jeunes à qui il faut donner la meilleure éducation possible, qu'il faut former, qu'il faut également trouver du travail. Mais c'est également une jeunesse tout à fait innovante qui est, d'ailleurs je parlais du Kenya tout à l'heure, Nairobi a été appelée à un moment donné la nouvelle Silicon Valley de l'Afrique. Il y a toutes ces potentialités, à mon avis, que l'Afrique a à offrir et qui devraient être d'un intérêt certain pour l'Amérique, une Amérique qui veut maintenir sa place et son leadership dans le monde et qui est en concurrence avec la Chine. Il faut se souvenir aussi que l'Amérique n'est pas seule, ce n'est pas un tête-à-tête entre l'Afrique et les États-Unis. Dans la mesure où l'Amérique veut contrer la Chine sur un territoire comme le continent africain, où la Chine aujourd'hui est très présente.
Souleymane Béchi Diagne, professeur à Columbia University à New York.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, la jeune féminine l'a suivie avec attention, particulière la prestation du serment de Kamala Harris comme vice-présidente de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les femmes tchadiennes rêvent de voir une parmi elles occuper ce poste dans les prochains jours, conformément à la nouvelle constitution qui, dans l'histoire du Tchad, crée aussi le poste de vice-président. André Kotbajinga, correspondant de VOA Afrique, a recueilli les réactions de quelques femmes leaders au Tchad. Reportage.
C'est une grande joie pour la jeune féminine tchadienne de voir Kamala Harris, une afro-américaine, arriver à ce niveau de responsabilité aux États-Unis. Ce 20 janvier 2021 est une date historique pour les femmes tchadiennes, leaders d'opinion et activistes, de voir une de leur genre accéder à ce poste qui vient d'être créé au Tchad.
La femme, elle est plus pacifique, elle a des atouts, hein. Et c'est une bonne gestionnaire aussi. Et cela ne veut pas dire qu'au Tchad, ce n'est pas possible. C'est possible.
Madame Titimbay Mariam Thierry, enseignante à la retraite. Pour elle, avec le monde en ébullition, il faut responsabiliser les femmes puisqu'elles sont actrices de la paix et le pilier de tout développement.
De l'économie, c'est elle. De l'éducation, c'est elle. De la santé, c'est elle. Il faut tenter avec les femmes voir. Mais au Tchad, il y a ceux qui sont pour une femme au poste de vice-président. Il y a d'autres qui disent non, il faut plutôt un arabophone. Donc il y a ce tiraillement déjà. Il faut faire donc très attention qu'on ne fasse pas des erreurs. Je vous donne un exemple très très simple. Madame Panza de Centrafrique, là, elle a dirigé, non? Ce qui se passe actuellement au Boko Haram, si au moins on prêtait un peu de considération aux femmes, sous silence comme ça, elles vont faire disparaître certaines choses. Mais l'orgueil de l'homme, l'avarice, je ne sais pas comment qualifier certains hommes d'aujourd'hui, là.
Âgé de 56 ans, l'ancienne procureure générale de Californie, Kamala Harris, fait la fierté du peuple africain. Son exemple doit inspirer les dirigeants africains qui négligent les femmes dans la prise des décisions.
C'est une femme qui s'est affirmée dans un milieu qui a été beaucoup plus masculinisé, où la femme a eu peu d'opportunités de s'affirmer et que là, elle est arrivée par la volonté du peuple.
Karioum Demba, militante de la société civile, pour elle, comparaison n'est pas raison.
La difficulté, c'est que nous sommes dans un système qui est un peu dictatorial. Même si, au niveau du Tchad, on a une vice-présidente femme, elle aura plus de difficultés à être entendue. Même si elle est compétente, les gens sont très conservateurs. On a des pesanteurs socioculturels et politiques qui ferment toutes les voies.
Pour Mme Bourkou-Louise Ngaradoumri, présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice Sociale, qui a déposé sa candidature pour être nommée à ce poste, il est temps de changer la mentalité tchadienne.
Négliger une femme, c'est déjà révolu. Parce que nous sommes déjà matures en politique. Mais le problème, c'est qu'on aime trop de mensonges. Qui t'a dit quoi? Qui va faire un coup d'État? Qui va faire ceci? Et si on met une administration forte en place, nous serons plus que ça. Ce n'est pas un miracle. Moi, j'ai donné ma candidature, c'est pour aider le Tchad. Nous sommes capables de conjuguer nos efforts avec nos époux pour pouvoir rendre l'économie florissante.
À ce jour, le président Déby garde toujours le suspense en ce qui concerne la nomination du vice-président ou de la vice-présidente, conformément à la nouvelle constitution du 14 décembre 2020. André Kodmadingar Ndiamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
L'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche, les Ivoiriens ont suivi de près le feuilleton américain et se prononcent sur la gestion de Donald Trump et les défis de Joe Biden fraîchement élu à la tête des États-Unis d'Amérique. Ils sont au micro d'Aïcha Diarra.
C'est un dictateur pour moi. Voilà. Sa gestion, je n'apprécie guère. Compte tenu du nouveau président, je pense bien que ce dernier-là, je mérite qu'à l'avenir, il ouvre les portes à l'Afrique pour que nous également puissions aller à l'extérieur.
Le président Donald Trump, sincèrement, moi, je n'ai pas aimé sa politique. Surtout envers les musulmans. Il a détesté catégoriquement les musulmans. Donc, j'espère que le nouveau qui est venu sera bon que lui. Parce que, sincèrement, moi, je n'ai pas aimé sa tête, encore mais sa manière de gouverner l'Amérique.
Tous les dirigeants politiques doivent prendre exemple sur les États-Unis, sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire ne pas accepter de forcément rester au pouvoir dans la force. Il faut accepter la démocratie, il faut accepter de perdre quand il faut perdre. Il faut accepter aussi de reconnaître la victoire, en tout cas de celui-là même qui a véritablement gagné.
Bon, concernant la gestion de Donald Trump, on va dire que dans l'ensemble, il a fait une mauvaise gestion. Il a eu des problèmes quasiment avec tous les pays. Il n'aimait pas les Noirs, il était très raciste. Donc tout ça seulement, je suis contente qu'il ne soit plus à la tête des États-Unis d'Amérique. Et pour ce qui concerne Joe Biden, il a travaillé avec Obama. On espère qu'il fera mieux. Il portera un regard particulier à l'Afrique.
Donald Trump n'était pas vraiment le président des États-Unis. Sa politique n'était pas conforme à celui des États-Unis, car les États-Unis ont besoin d'un président qui réunit tous les Américains et non pour les diviser. Je pense que le nouveau président sera à la hauteur. Bon mandat à lui.
Donald Trump, il a mal géré le pays. Puisque à sa gouvernance, il y a eu... l'Amérique était déchiré avec les uns et les autres. Quand c'est comme cela, c'est pas bon pour un pays. Et l'avènement de l'élection de Joe Biden, je pense que ça va ressouder les États-Unis d'Amérique et ça aura un effet aussi sur le monde parce que les uns et les autres regardent l'Amérique pour pouvoir aussi gérer leur pays.
Franchement, c'était un monsieur que moi je supportais pas, tout juste parce qu'il avait une mission et cette mission c'était de réunir les États-Unis. C'est être un président exemplaire, c'est être quelqu'un qui pourra aider dans l'évolution des États-Unis. Maintenant, il a carrément laissé son objectif et puis il s'est carrément détourné vers les idéologies qui ne sont même pas les siennes. J'espère que le président rentrant, Joe Biden, j'espère qu'il sera à la hauteur.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
Coronavirus, le Sénégal fait de la vaccination une priorité. Les autorités entendent débuter en mars 2021 cette opération de vaccination qui devrait s'étendre jusqu'à mars 2022 avec pour objectif clair de vacciner tous les Sénégalais contre le Covid-19. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, est allé à la rencontre des Sénégalais.
C'est dans les rues du quartier de Sécap Liberté 5 que nous avons rencontré Ousmane, jeune fonctionnaire. Il est sur le point de prendre sa pause déjeuner dans un restaurant juste à côté de son lieu de travail. Interpellé sur la campagne de vaccination annoncée par le chef de l'État Macky Sall pour barrer la route au coronavirus, il reste sceptique et ne compte pas le faire. Pourquoi ? Voici sa réponse.
Par rapport au vaccin, il y a d'abord un certain nombre de paramètres qui nous paraissent contradictoires et qui font que j'hésite à pouvoir faire un vaccin. Les spécialistes eux-mêmes ne s'accordent pas sur quel est le bon vaccin. J'ai vu des professeurs d'université à médecine qui disent qu'ils ne se vaccineront pas et que leurs enfants ne se vaccineront pas et leur famille ne se vaccinera pas. Donc, par conséquent, cela nous amène à avoir des doutes. Maintenant, au-delà de ces doutes, il y a une perception générale de ma part qui fait que tout ce qui est médicament pharmaceutique, j'ai une sorte d'allergie psychologique à l'endroit de ces médicaments-là.
Ousmane, sceptique à l'idée de se faire vacciner contre le Covid-19, tout le contraire de Mama Diallo, elle est consciente de la gravité du virus. Pour se protéger et protéger son entourage, elle se fera vacciner à la première occasion.
Et en fait, me faire vacciner contre le coronavirus, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est une maladie qui a été inventée de toutes pièces ou bien qui serait le fruit d'un complot international. Donc quand j'entends parler les médecins, quand on voit les conséquences que cette maladie a générées dans le monde et au Sénégal également, je reste convaincu de la dangerosité de la maladie. Et du coup, je n'hésiterai pas une seule seconde à me faire vacciner contre cette maladie dont le vaccin reste le moyen le plus sûr.
Modou est chauffeur de taxi. Pour lui, il n'est pas envisageable de se faire vacciner car d'après les rumeurs, ça rend stérile.
Le président, lui, peut se vacciner. Mais moi, je n'y pense pas. J'ai peur. Il paraît qu'il peut te rendre stérile. Il a le même effet chez les filles aussi. Elles risquent d'être stériles à cause du vaccin. Donc, je ne vais pas le faire.
Ces rumeurs sont totalement balayées par le docteur Tcherno qui estime que les vaccins homologués sont fiables. Cependant, il pense que la solution pour rassurer la population est plus sociale que médicale.
Il faudrait qu'il y ait des exemples, des autorités qui se fassent vacciner devant tout le monde et qu'on vulgarise ces images dans tous les domaines, que ce soit des prêtres, des imams, des marabouts soi-disant, des autorités politiques de tout ordre et de toute hiérarchie. S'ils se font vacciner, les autres vont vacciner leur famille, les autres auront confiance et vont adhérer facilement.
Annoncé à partir de mars 2021, la campagne de vaccination prévue est déjà l'objet de polémiques. Une frange de la population en a une mauvaise perception. Malgré la flambée du virus et des malades qui se comptent par centaines actuellement, beaucoup de Sénégalais restent très sceptiques sur la fiabilité du vaccin. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace. Africa.
Laid up, got me thinking, babe. Tell me if you with it, cause I'm with it, babe. I haven't heard from you and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci and Prada. Triple D crib in the middle of the night. I don't let you miss me as I put it down right now, babe. I can put you on a flight. You know that a nigga like me can change your life. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby.
cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.